Bon, alors maintenant qu'on a tous une autre petite dose de soleil, on va pouvoir s'y remettre pour la dernière après-midi. Donc je vous présente, ou je ne vous présente plus, Catherine Cocchio, qui travaille sur les esthétiques de la fin. Au XIXe siècle, sur les littératures issues des violences politiques, et qui a publié plusieurs collectifs sur ces questions-là, notamment sur les camps. En particulier, les témoignages de l'enfance pendant la Shoah, une anthologie sur l'enfant et le génocide, et puis aussi un collectif sur le Rwanda. Donc aujourd'hui, elle va nous parler du merveilleux Lazaréen. Donc son titre est « Du merveilleux Lazaréen à la mythologie post-exotique, péripéties d'un refus de témoigner
». Oui, merci. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de Volodine, donc, et je remercie d'autant plus les organisateurs de m'avoir invitée, puisque j'apprends énormément et avec un très grand plaisir dans ce colloque. Et je regrette d'ailleurs de n'avoir pu être présente que les 3 derniers jours. Alors, un mot sur ce titre, ou pour l'instant ce sous-titre « Péripéties d'un refus de témoigner » dont je vais partir. Hein, l'expression « refus de témoigner » est en fait une expression empruntée au titre français d'un livre donc traduit de l'allemand de Ruth Klüger, hein, donc « Refus de témoigner » en français. Ce livre s'appelle en allemand « Weiterleben ». Il est paru en 92, hein, et c'est à la fin de ce livre qu'est cité par l'auteur un poème d'elle antérieur qui date des années 60 et qui s'appelle « Refus de témoigner ». Je ne peux pas vous le lire parce qu'il est trop long, mais il exprime, pour résumer mal forcément, le sentiment d'être assigné à la fonction de témoin. Fonction de témoin qui, comparé à un sentiment de persécution, en fait, un empêchement, un incessant interrogatoire policier sur les morts, hein, sont les images qu'elle utilise, interrogatoire policier auquel elle se retire, ou elle dit se retirer, dans ce poème, hein, des années 60. Elle n'a donc alors pas encore précisément témoigné par un récit de déportation, ce qu'elle fera beaucoup plus tard. Et elle se dit dans ce poème peu fiable sur ce qui s'est passé tout près d'elle, mais sans elle. Et elle, je cite juste cette phrase, « Les plus mensongers parmi tous les témoins sont loin d'être aussi peu fiables que je suis. » Et dans ce récit de déportation, donc, qui est finalement quand même, hein, « Weiterleben », où elle témoigne donc de l'expérience de Theresienstadt puis d'Auschwitz, puis de son exil aux États-Unis, et finalement d'un accident en Allemagne qui lui a ramené une forme de mémoire et donc a suscité ce désir finalement quand même de témoigner, elle affirme dans ce texte le plein droit du rescapé à la poésie contre la sentence d'Adorno sur le poème Barbara après Auschwitz. Et elle exige d'être identifiée, sur un ton très impérieux et très agacé, d'être identifiée comme écrivain, plus que témoin, et comme originaire de Vienne et non pas d'Auschwitz. Et tout ce texte écrit sur un ton très irrité, on entend constamment cette voix un peu irritable de l'auteur, comme si elle s'en voulait à elle-même de finalement délivrer cet héritage, ce témoignage, pardon, et d'avoir à s'expliquer et à raconter tout ça en s'expliquant. Hein, et le récit est continuellement donc entrecoupé d'explications semi-irritées. Alors, ceci m'est revenu lorsque j'ai lu l'entretien, et puisque on est en fin de colloque, je vais le citer, je ne sais pas, il a peut-être été cité en début de... En début de colloque, hein, on recommence depuis le début, c'est page 248 à propos du nom des singes. Fabienne Golpiez, en présence de son psychiatre halluciné ou de ses tortionnaires de la rue 19 de Fébrérourt, énumère les éléments fondamentaux du décor, les arbres, les oiseaux, les serpents, les araignées, etc., en leur attribuant la musicalité de la langue générale, le toupi du bassin amazonien, en même temps qu'un caractère encyclopédique délirant. Ce faisant, il subvertit la fonction descriptive du « réalisme ordinaire », entre guillemets, en disant l'univers qui l'entoure, en nommant avec précision le présent, il « parle d'autre chose », entre guillemets. On retrouve bien là une des pratiques fondamentales de résistance à l'oppression intellectuelle et physique qui se situe à l'origine de la parole post-exotique. Quand Fabian Golpiez raconte des fragments de son expérience individuelle et collective, quand il choisit de les raconter de façon onirique, dans un désordre qui empêche l'auditeur hostile de reconstituer pleinement et aisément l'histoire, il se livre à l'exercice sur lequel repose pratiquement toute fiction post-exotique. Alors, on est bien sûr là très loin d'un texte comme celui de Ruth Kluger, mais ce qui m'intéresse là, c'est ce que je vois en commun, c'est ce retrait, ce geste de retrait à l'injonction testimoniale et à ce désir de parler d'autre chose, comme forme de résistance à un type d'oppression particulier qui serait ici, pour le rescapé en tout cas, là, au fond, l'obligation de témoigner. Et cette subversion du réalisme ordinaire, au fond, il a lieu aussi dans la littérature testimoniale, c'est-à-dire que la subversion du témoignage, au fond, explique, je crois, l'existence d'une littérature de témoignage qui intègre des procédés de fictionnalisation, je dirais, ou de déplacement fictionnel. C'est-à-dire qu'on a, chez beaucoup d'écrivains rescapés, et je dirais dans la littérature la plus importante, qui émane, ou qui reste, enfin, qui est la mieux transmise, je dirais, en tant que littérature, ce refus de témoigner, ce désir de parler d'autre chose, même s'il faut néanmoins parler bien de cela, une forme de refus, de contournement ou de retrait qui serait constitutive d'un certain devenir littéraire du témoignage. On le voit très bien en particulier à propos des témoignages du génocide nazi, de la Shoah. Et c'est une exigence, ce retrait devient en quelque sorte une exigence productive en termes de réussite littéraire. Et elle explique, au fond, que beaucoup d'écrivains rescapés passent à la fiction, même pour écrire, et souvent crypter, déplacer, métaphoriser l'expérience vécue. Alors, je pourrais en citer énormément, ce sont souvent de grands auteurs. Dans les années 60, par exemple, Piotr Havitch, qui a écrit en France, originaire d'Ukraine, qui a écrit en France un roman tout à fait extraordinaire, qui est un roman véritablement, qui s'appelle « Le sang du ciel », plein d'allusions nombreuses, mais très cryptées à son expérience d'une fuite hors du ghetto de Lvov, mais il a vécu aussi la déportation à Auschwitz où il a caché sa judéité. Cette déportation à Auschwitz est complètement tue par la fable, alors que cette expérience de la fuite hors du ghetto est racontée, mais vraiment avec le parti pris tout à fait ostentatoire de la fiction, de la fable, en thématisant le problème qu'est devenu cette fable, cette fiction, cette littérature au sens fort. C'est un texte extrêmement littéraire, ultra littéraire, je veux dire, qui multiplie les signes de littérarité, en même temps qu'en faisant de la littérature la figure d'une transmission d'un certain monde juif pénétré de mysticisme sous le signe de la catastrophe. Et à un moment de ce texte, particulièrement à la fois très beau et très éprouvant, il y a un récit de massacre qui, au fond, se donne à voir comme le contournement du récit. Véritablement, au moment de raconter le récit proprement dit, on décrit précisément beaucoup de choses à la fois, des choses très éclatées, mais ce fameux sang du ciel, on se tourne vers le ciel, c'est-à-dire une force espèce de mouvement centrifuge du témoignage ou du souvenir de l'acte de témoigner qui fait aller vers le ciel. On trouve de toute autre forme de cela dans l'exigence de fictionnalisation qu'on voit dans l'œuvre d'Imre Kertész, et en particulier déjà dans son tout premier texte, Être sans destin, où il a dit plus tard qu'il a voulu utiliser la figure de l'enfant, non pas comme le substrat autobiographique qu'il était néanmoins, puisqu'il a été déporté à 14 ans, non pas comme une référence, ou pas seulement comme une référence à son expérience vécue, mais comme une figure de l'infantilisation totalitaire. Et dans ce roman, à la fin, enfin, cette fiction autobiographique, le héros n'a pas le même nom que l'auteur, le héros refuse de raconter son histoire, là, il y a une mise en scène du refus de raconter, ce qu'on vient de vivre immédiatement, donc à la fin d'Être sans destin, il refuse de raconter son histoire à un sort de journaliste qui est prêt à recueillir et au fond avide de sans doute de sensations fortes, qui lui demande de raconter l'enfer qu'il vient de vivre. On retrouve d'ailleurs cette scène dans Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, et où il dit « je ne viens pas de l'enfer, je viens d'Auschwitz ». Et donc la prise de conscience que cette histoire va devenir la forme d'une nouvelle existence et qu'il faut un temps, et un temps très long, qui a été très long pour Cartès, d'une mise en forme de cette nouvelle existence, qui exigera donc plus qu'un simple récit de déportation factuelle immédiate. Cartès dit souvent, et d'ailleurs ça le fait mal voir, hein, souvent, qu'il n'aime pas les récits linéaires factuels. Et le choix de la forme linéaire dans Être sans destin est un choix profondément ironique, c'est une écriture constamment ironique, et il a dit à plusieurs reprises que le travail de témoignage pour lui devait forcément être un travail de fictionnalisation, de réinvention, comme il l'a dit lui-même, d'Auschwitz dans la langue. Il fallait rétablir Auschwitz comme fiction. En quelque sorte, non pas pour reconstituer l'événement, mais pour assurer son fondement par la forme littéraire. Et cette politique du détour, du déguisement, de la fiction va de pair avec l'affirmation des droits de la fable et des droits de l'humour chez ceux qui revendiquent, dit-il, le funeste héritage d'Auschwitz. C'est dans son texte où il justifie contre toutes les attaques le film de Benigni, La vie est belle. Et très souvent, à plusieurs reprises, dans ses entretiens et dans son journal un autre, Cartès a dit « On me demande toujours de parler d'Auschwitz, souvent j'en ai assez, je voudrais parler du plaisir de la langue, parler d'autre chose. » Alors, cette figure du refus de témoigner, ou du contournement, ou du retrait, on la voit d'une manière beaucoup plus nette chez un auteur, donc je vais dire un mot, et je vais tenter un rapprochement avec l'œuvre de Volodine, qui est Jean Cayrol. Alors, pourquoi refus plus net ? Parce que tout simplement, il n'a pas écrit son témoignage de Mauthausen, où il a été déporté entre 1942 et 1945. Il a, comme on le sait bien sûr, collaboré, fait le texte de Nuit et brouillard, mais il l'a fait, et là je renvoie à tout ce qu'a dit et expliqué Marie-Laure Bazuyot dans sa thèse sur Cayrol, le témoigner clandestinement. Il l'a fait avec un grand dégoût, c'est-à-dire qu'à un moment de son travail, il avait donc accroché sur le mur une série d'images en couleur, des camps justement, de ce qui restait, et il a craqué dans cette pièce-là, il a décidé d'arrêter, et c'est l'intervention de Chris Marker qui lui a fait reprendre ce travail-là, convaincu de le faire aboutir. Il y a une espèce d'horreur des images de camp chez Cayrol, horreur d'un récit personnel. Il choisit le « on », dans le texte de Nuit et brouillard en particulier, il choisit l'impersonnalité pour l'universalité, l'universalisation de cette expérience. Et tout cela correspond au fond à cette formule d'un art lazaréen qu'il avait proposé dans un texte de 49 et réédité en 50, sur lequel je vais revenir, formule qu'il a tenté de réaliser par une série d'une douzaine de récits dits lazaréens, rédigés entre 47 et 1968. Alors, c'est une poétique de l'après. Alors, ce texte a été publié d'abord sous le titre d'un romanesque concentrationnaire dans la revue Esprit en 1949, puis republié en 1950 sous le titre Pour un art lazaréen, repris avec un autre texte qui s'appelle Les rêves lazaréens, qui est aussi un texte très important à mon avis. Repris donc, ces deux textes ont constitué un petit livre qui s'appelait Lazare parmi nous. Cayrol avait des raisons personnelles, mais je ne vais pas du tout en parler. Je renvoie à la thèse de Marie-Laure Bazuyot là-dessus, de ne pas vouloir témoigner. En tout cas, il y a des hypothèses. Beaucoup se sont demandé pourquoi il ne voulait à ce point pas parler. Quand il a raconté son autobiographie, écrit son autobiographie dans les années 80, il a fait 5 pages sur l'expérience du camp, très très peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il en a fait, évidemment, de ce refus de témoigner, ce qu'il en a fait en littérature, cette formule, qu'il va d'ailleurs reprendre plus tard dans le livre « Droit de regard » qui porte sur sa poétique, son esthétique cinématographique, mais plus généralement sur le regard dans l'œuvre et la création d'une manière générale. Il dit ceci, « Revivre un drame, c'est vivre sa vie après le drame, ce n'est pas se souvenir. » On peut créer un monde, on ne peut reconstituer un monde, autant voudrait ressusciter un homme dont on a dispersé les cendres au vent. Donc paradoxalement, l'art lazaréen n'est pas un art de la résurrection, c'est l'exigence d'une création nécessaire, celle d'un monde autre, qui contienne le passé sous la forme de la vie d'après, d'après le drame. Alors pourtant, ce qui suppose donc un travail de fiction pour lui, mais cette nécessité de la création littéraire n'équivaut pas du tout à un satisfait quid donné à toute fiction, puisque dans un texte très souvent cité, qui s'appelle « Témoignages et littérature » et qui a été suscité, entre autres, par le livre de Robert Merle, sur le camp d'Auschwitz, il a écrit, donc, il a critiqué en quelque sorte le folklore du créma, comme il dit dans les romans, qui croyait pouvoir donner corps à l'univers du camp alors qu'il s'agissait d'un monstre. Et dans ce texte, il critique ce qu'il appelle le tourisme concentrationnaire, la transformation des déportés en bêtes exotiques, l'émoussement de la sensibilité que tout cela suppose. C'est-à-dire que, donc, il disqualifie la mimesis en tant que reconstitution d'un monde disparu, sur le mode réaliste. Il faut, selon lui, trouver un autre type de fiction, un autre régime esthétique même, d'où les formules de romanesque concentrationnaire et art lazaréen. Donc créer suppose bien de revivre un drame, non de se souvenir de ce drame, mais cette seconde vie du drame, c'est-à-dire sa vie poétique, littéraire, doit se contenter du présent, qui porte seul la puissance de projection imaginaire. Et du coup, ces fictions ne sont pas exactement des romans. D'ailleurs, Barthes a parlé à leur sujet de pré-romans. Il a d'ailleurs, au sujet de Kerol, imaginé cette notion d'écriture blanche. Il en parlait à propos de Camus, Blanchot, mais aussi de Kerol. Et il y a cette formule que je trouve très belle et vraie, qui est qu'avec Kerol, on chemine au long de l'idée de roman. Alors, donc, ça signifie que l'histoire ne peut s'écrire qu'au présent, un présent tramé lui-même de passé. Bien sûr, c'est un propos politique. Kerol faisait la critique de la politique coloniale française au moment de faire Nuit et brouillard. On se souvient du cri sans fin, qui est la dernière formule du texte. Et donc, il fallait entendre au-delà de ces images des camps passés. Il a fait la critique aussi des grands ensembles urbains, de la politique de construction des années 60, les cages à poules. La dispersion des cendres au vent, c'est aussi l'émiettement de ce qu'il appelle le concentrationnat dans l'espace quotidien de l'homme d'aujourd'hui. Et en ce sens, le texte de Nuit et brouillard est un texte de mémoire profondément contemporain. Penser le camp, c'est créer l'espace poétique de la vie d'après, c'est-à-dire de maintenant, et en ceci, bien sûr, cette pensée poétique est aussi politique. Écrire à partir de la dispersion de l'homme d'avant dans le vent de l'histoire, c'est évoquer un monde d'ailleurs, au sens où il n'est ni le monde des camps, c'est-à-dire dans un sens très nouveau. Il n'est ni le monde des camps, ni le monde normal, il est un entre-deux-mondes, un monde à la fois présent et absent, fait de présent et de passé. Et cette manière qu'a le passé d'habiter le monde présent sur le mode de la dispersion, dans le vocabulaire de la conscience subjective, c'est en fait la hantise, l'emprise, l'envoûtement, toute notion qu'il utilise lui-même. Mais ces procédures dépassent la conscience subjective et deviennent des modes d'être collectifs, ainsi que des procédés littéraires et aussi d'ailleurs cinématographiques, puisque dans Droit de regard, lorsqu'il parle de son film Muriel par exemple, il utilise d'ailleurs souvent des images qui sont proches, très très proches même, de la notion d'image dialectique chez Benjamin. Et il dit ce que je veux au fond, c'est pouvoir catapulter plusieurs temps à la fois, montrer dans une image le plus de temps différents possible. C'est-à-dire montrer un personnage téléphoné, raconter ce qui vient de se passer tout en montrant des barbelés. Il dit c'est ça la littérature pour moi, c'est rassembler tout, c'est aller plus loin dans la concentration des événements. Il y a chez Kerol une constante reprise avec un déplacement du vocabulaire de la déportation, ici la concentration. Donc ce qui n'est plus est en réalité partout, à l'état de signe, d'empreinte, déchiffré par l'initié qu'est le déporté, il faut une initiation, lui-même étant pour les autres le signe invisible, mais incarné, ambulant, charnel et fantomatique de cette réalité qui n'est plus. C'est-à-dire sa survie fait qu'il est à lui-même sa propre hantise. Il est hanté par le monde disparu auquel il appartenait et il hante le monde présent auquel il n'appartient pas, ou pas totalement. Et cette déliaison perturbe le monde qui l'entoure à la manière d'une puissance invisible, pas seulement fantomatique, mais magique, sacrée. Il y a cette exigence de construire, de fabriquer de la magie, du sacré, hein, dans ce type de fiction qu'il appelle de ses vœux. Donc l'objet du témoignage se déplace et se dissout dans la chronique de l'exil quotidien qui est la survivance, récit d'une existence qui prend forme d'énigme pour soi et pour les autres, et c'est l'énigme qu'est cette existence déportée, déplacée, errante, vagabonde, dit-il aussi, c'est la forme même de transmission de l'expérience pour Carroll. Donc le passé, accessible à travers le présent où il s'est entièrement disséminé, se transmue en existence plombée, entièrement placée sous le signe d'une certaine inquiétante étrangeté. Alors vous voyez déjà, je vais donner des exemples hein, de ce texte, hein, mais on voit tout de suite le type d'analogies qu'on peut, qui sont frappantes en fait dès la première lecture hein, des romans de Woelodin. Je ne suis pas la première à faire ce rapprochement. Frédéric Détu l'a fait avant moi dans un de ses articles hein, sur Après le romantisme. Frédéric, ça s'appelle, où es-tu dans la revue La Licorne. Où il parle du régime post-esthétique, hein, du post-exotisme. Donc, dans les romans de Woelodin, hein, on sait bien là, bon, la question du témoignage et du témoignage impossible ou à transformer en féerie est thématisée. Dans Dundog en particulier, elle est au cœur du texte. Et dans toute sa littérature, hein, la figure du déporté, le monde des ghettos et des camps sont au cœur du travail littéraire de la fable et de la poétique post-exotique. C'est-à-dire que l'acte de témoigner est là, représenté dans Dundog en particulier, mais comme un acte centrifuge, je dirais presque panique, qui oblige à fuir le réel, à s'en protéger, par des bons de côté ou des élans dans l'imaginaire. Et j'ai vraiment l'impression que, en lisant Woelodin, qu'il fait comprendre ce que voulait dire Carroll, que je crois, au fond, ses contemporains je crois qu'on peut comprendre mieux maintenant ce que disait Carroll en 49-50. Et que la lecture de Woelodin redonne un sens particulier, même si évidemment il dit autre chose que Carroll aussi. C'est-à-dire qu'il y a une filiation très, très étrange, hein, une ressemblance, je pense involontaire, hein, mais visible, vraiment frappante, saisissante, en particulier entre le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, et ce texte de Carroll d'un romanesque concentrationnaire, hein, qui sont des textes manifestes, hein, tous les deux, écrits à 50 ans d'intervalle, quasiment. Hein, alors, je n'ai trouvé aucun indice d'une lecture, j'ai pas osé demander, il n'y a pas de lecture, en fait, j'ai enquêté, j'ai demandé à Frédéric s'il savait, et je sais que non, donc, mais au fond, pour moi, c'est pas du tout, d'ailleurs, le problème. Pour qui a lu Carroll, avant de lire Woelodin, comme c'est mon cas, il est impossible de lire, en quelque sorte, l'un sans penser à l'autre. Donc pour moi, le problème n'est pas que Woelodin ait lu ou pas Carroll, mais que l'œuvre de Woelodin puisse faire résonner pareillement cette œuvre-là si longtemps après, alors que cette œuvre de Woelodin s'ancre terriblement dans le présent, dans la pleine contemporanéité. Alors on sait que Carroll est dans l'air du temps, il a été réédité, hein, l'œuvre lazaréenne a été rééditée en 2007 hein, au Seuil, hein, et c'est très étrange parce qu'au fond, ce temps précisément, n'est pas du tout le même que le sien. Il avait été édité, le texte d'un romanesque concentrationnaire avait été réédité aussi en 1997 sous le titre De la mort à la vie, avec Nuit et brouillard, hein, à l'initiative d'Eric Orsena. Donc ce qui m'intéresse, c'est le contretemps que constitue ce phénomène de ressemblance, hein, et ce qu'il nous dit à la fois du sens que peut reprendre l'œuvre l'idée d'art lazaréen aujourd'hui, et le sens que Woelodin veut donner à son œuvre, à son post-exotisme. Quelle relation il y a, au fond, entre ces deux pensées de l'après, qui sont aussi des pensées de l'ailleurs ou d'un après des ailleurs, hein, en tout cas qui se pensent toutes les deux à l'aide de l'idée d'ailleurs, mais d'une mutation, je crois, de l'ailleurs. Et cette mutation, elle donne lieu à cette notion de merveilleux qui est au centre de la poétique de Carroll et à la notion de féerie qui est au centre de celle de Woelodin. Et on trouve chez l'un et chez l'autre les deux termes d'ailleurs, hein. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples, enfin, vous en dire plus sur ce texte. Un mot quand même sur le fait que c'est pas seulement le propos qui fait résonner, le propos de l'un qui fait résonner celui de l'autre, c'est que il y a une posture en fait qui peut être aussi comparée, celle d'une formule à trouver pour s'inscrire dans le champ littéraire en renouvelant la littérature et l'idée même de littérature, ça qui me semble intéressant, par une notion théorique qui relève de la métaphore et qui fasse faire œuvre, celle de romanesque lazaréen, celle de post-exotisme. Et bien sûr, il y a une énorme distance entre les deux. Chez Carole, c'est l'idée d'un art directement issu des pires convulsions du siècle, comme il le dit, tandis que le poste de Volodine, c'est qu'il vient après tous les postes, que c'est la figure ironique d'un poste de tous les postes au carré, je dirais, qui désigne non seulement tous les après, mais l'après de tous les ailleurs. Donc il y a vraiment un autre après chez Volodine. Et cet ailleurs relève de l'utopie littéraire et non plus politique. Il exige quelque chose du côté de la fiction sans pour autant s'identifier au genre du roman. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose de commun ou d'apparenté, disons. Alors, le texte de Carole commence ainsi, « Il n'y a rien à expliquer ». Ça ne sert à rien de dire que c'est une idée récurrente chez Volodine, parce que c'est une idée qui est assez commune en soi, qui dépend évidemment du contexte. Alors ici, chez Carole, il s'agit d'introduire à l'idée que les camps ont été subis de différentes manières par leurs victimes. Certains sont morts, d'autres sont terrorisés. Beaucoup, je cite, en vivent et tentent de se frayer un chemin à travers cet insaisissable camp, avec des majuscules, qui à nouveau les entoure, les envoûte, les déroute. Ça sent plus fort que jamais le concentrationnaire, et ceux qui n'ont connu que par ouï dire les camps, avec un grand C, commencent à avoir les tics majeurs de cet univers. Voilà, quand je vous dis qu'on ne peut pas ne pas penser à l'un et à Volodine en lisant ceci et inversement, voilà par exemple. Je cite encore, l'influence, la sollicitude concentrationnaire ne cesse de s'accroître, non seulement dans leur réalisation ininterrompue, on imagine de nouvelles cartes géographiques où les principautés du meurtre sont marquées pour les prochains explorateurs de ces terres de désolation, donc non seulement dans leur réalisation ininterrompue, ça c'était une parenthèse, mais encore dans le psychisme européen et même mondial. Donc alors il y a ce motif du tic qui est d'ailleurs présent souvent dans les textes de Volodine, et qui au fond réfléchit quelque chose de son post-exotisme, c'est-à-dire qu'il y a fabrication d'un certain paysage familier, fait de répétitions, de signes de reconnaissance. L'idée d'une nouvelle cartographie imaginaire des principautés du meurtre semble décrire, bonne pour décrire l'univers de Volodine. Et au-delà des formules, il y a une manière chez Carole de saisir le camp à l'état de phénomène et non pas d'événement, cette notion de concentrationnaire qui dépasse l'évocation du camp lui-même. C'est-à-dire qu'on a vraiment une création très précoce par Carole d'un paradigme, le concentrationnaire ou ce qu'il appelle le concentrationnat, et le phénomène de son émiettement dans le présent. Un phénomène politique qui se diffuse dans la réalité présente. Et donc il fait du camp, comme expérience historique, un sujet, une force, doté d'une puissance et même d'une aura. Une puissance qui place le monde sous emprise une fois qu'elle s'est actualisée dans l'histoire. Et il y a donc une progression de cette emprise, ça sent de plus en plus fort, le concentrationnaire. C'est difficile de comprendre d'ailleurs ces phrases, comme beaucoup de ce texte, beaucoup de phrases de ce texte. Y aurait-il une progression objective, c'est les deux à la fois évidemment, du concentrationnaire dans le monde, même si elle n'est pas visible, mais aussi progression subjective, ce psychisme européen et même mondial. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie au fond? Est-ce que les esprits, les âmes se plieraient à cette force de plus en plus, ou est-ce qu'ils la perçoivent de plus en plus? Ça n'est pas dit. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'assimilation de l'expérience. L'expérience continue de dérouter, le camp est insaisissable, ne se met pas au passé. Il n'est un objet de mémoire qu'au sens de hantise, l'histoire est bloquée dans cet éternel présent de l'après. Et puis ensuite, Carole passe à la proposition littéraire issue de ce constat. Il situe la littérature en termes politiques, Je cite, « La littérature qui achève de vivre dans les derniers soubresauts d'un capitalisme intellectuel ruiné. » Alors ça, d'après Volodine, c'est une situation plutôt optimiste, hein, puisque ce n'était pas, évidemment, dans les années 50, les derniers soubresauts d'un capitalisme intellectuel ruiné, hein, mais c'est néanmoins bien là, c'est une ruine, hein, que va raconter Volodine, la ruine aussi du capitalisme, hein, et pas seulement de cette nostalgie révolutionnaire, de cet espoir révolutionnaire. Chez Volodine, on a le refus de la réalité capitaliste, presque, je dirais, le déni volontaire de la réalité capitaliste. Alors, Kerol, donc, énonce à son idée principale d'un renouvellement possible de la littérature par ce qu'il appelle cette intime filiation avec cette effervescence démoniaque. Hein, il propose d'esquisser un romanesque concentrationnaire, créant ainsi les personnages d'une nouvelle comédie inhumaine, on retrouve Balzac, un réalisme concentrationnaire dans chaque scène de notre vie privée. Et il dit, reprendre le mot à la mode de réalisme, et là il détourne clairement hein, l'esthétique socialiste, et là aussi je repense à la manière dont Volodine s'amuse à reprendre le réalisme socialiste en y accolant le qualificatif magique. C'est-à-dire que dans ce réalisme-là magique, hein, eh bien, la scène de la vie privée, hein, c'est l'imaginaire le plus débridé, le plus délirant et le plus démoniaque aussi. Alors, Kerol imagine donc un art né directement d'une telle convulsion humaine, d'une catastrophe qui a ébranlé les fondements même de notre conscience, un art qui serait peu propice au chantage qu'exerce toute mode littéraire, un art qui, par suite de ses créations et de ses procédés mêmes, porterait le nom d'art lazaréen. Cet art, dit-il, existe déjà en formation dans notre histoire littéraire, mais aussi en peinture et en musique. Il cite des jeunes peintres, il cite Picasso comme le peintre qui aurait été adéquat pour l'Appelplatz pour peindre l'Appelplatz de Mauthausen ou Buchenwald. Il parle de répétition continuelle des mêmes formules, état hypnotique des formes et des volumes, tension de la couleur, monde panique des objets. Il parle de la perte de la maîtrise de la vision, d'une ouverture à la vision d'effroi. Et il dit qu'au fond, en littérature, eh bien, on est beaucoup plus timoré. Cette ouverture-là a lieu à l'effroi, mais de manière beaucoup plus discrète. Et il en appelle à, je cite, « des écrivains conquérants » qui n'ont pas honte d'enjamber les cadavres ou la pourriture, et dont, je suis sûre, la porte s'ouvrira sur le grand royaume de Dieu. Nous avons plus que jamais besoin d'écrivains de salut public, je cite encore, de ceux qui n'ont pas peur de se salir les doigts, de descendre dans les âmes, même les plus dévoyées, l'illustre maison de l'homme. Et donc là aussi, hein, on a l'impression que certaines de ces formules conviennent bien pour lire la littérature de Volodine, avec cette obsession de la pourriture, de la saleté. Mais évidemment, l'ouverture de la porte ne se fait pas sur le royaume de Dieu. Hein, Kerol était chrétien. Mais le texte de Romanesque concentrationnaire est très peu chrétien. Hein, le Lazaréen est un revenant, ça n'est pas du tout un ressuscité chrétien. Hein. Mais bien sûr, chez Volodine, l'ouverture de la porte se fait sur le monde noir, sur un royaume chamanique sans Dieu. Alors, la littérature que Kerol appelle de ses voeux, il la distingue du témoignage des camps, très clairement, même s'il imagine cet art lazaréen en lecteur des témoignages des camps. Il cite les livres d'Anthelme et de Rousset, qui surnagent, dit-il, mais ce qu'ils ont dessiné entre déjà dans la préhistoire concentrationnaire. Reste, dit-il, il dit ça en 49, hein. Reste à montrer le visage des camps après la libération dans le masque qu'ils portent. Et là, il dit, nous reprochons de penser aux camps, mais nos amusements eux-mêmes baignent dans la lumière concentrationnaire, et il évoque les transes des danses du 6e arrondissement, hein, qui rappellent l'initiation des jeunes dans les tribus australiennes, dit-il, où certains plaisirs des camps, je le cite, je songe à ce mourant qu'on faisait danser comme un pantin à l'aube dans un groupe de gitans. Et là aussi, il parle de cette volubilité de la danse, ce culte forcené du non-être, ce manque de prise sur le réel, cette répétition infinie des figures chorégraphiques, le refus du temps, etc., sont déjà des signes prémonitoires de nouveaux temps mis à la portée de tous les enthousiasmes de la jeunesse. Et là aussi, je trouve que ces formules-là résonnent, hein, lorsqu'on lit Volodine. Et lorsqu'on lit cette prosodie syncopée, lorsqu'on voit au fond hein, cette gesticulation dansante hein, qui est une espèce de culte du néant, tous ces gestes chorégraphiés hein, qui tendent tous au rituel, hein, une idée de rituel donc greffée sur le mythe chamanique. Vient d'ailleurs à ce moment-là du texte de Kérol la figure de l'ange, hein, mais je n'ai pas le temps de tout citer. Hein. Il parle du sentiment d'un temps lui-même déporté qui donne lieu à une forme de mutisme, de torpeur. Il parle de l'extraordinaire somnolence lazaréenne. Il parle de la vie en marge des survivants, à l'encontre des amicales d'anciens déportés dont il a horreur. Il voit une façon, il imagine un autre type de communauté qui serait une façon particulière d'écrire, je le cite, de sentir un style, un romanesque dans lequel tous les événements, même les plus familiers, nous demeurent incompréhensibles, répréhensibles, rebutants, irritants et si peu révélateurs pour le non-initié, pour le lecteur qui se refuse à entrer dans le jeu infernal de cet émiettement du concentrationnat et brise à tout prix n'importe quel miroir de son propre mal. Donc au nom du principe d'intranquillité, il faut une initiation du lecteur à des règles d'un jeu dit infernal, hein, celui de l'émiettement qui rend le familier incompréhensible. Donc toute une méthode d'étrangéisation du réel hein, qui permettrait au lecteur de voir son propre mal. Et cet art que Kérol dit mystérieux, subtil, encore furtif, pourrait, dit-il, devenir l'art unique, inséparable de notre condition précaire d'homme si nous continuons à côtoyer les charniers. Il dit qu'on pourrait même écrire l'histoire, la préhistoire et la pré-préhistoire en quelque sorte, hein, de cet art. Hein, et il cite Camus, songeant à l'étranger entre autres. Hein, il cite aussi l'abbé Prévost, les aventures intéressantes des mines de Suède, hein, qui décrit des mineurs hein, trimant hein, une communauté de sous-hommes, comme le dit Kérol, hein, vivant dans la misère et la léthargie. Hein. Il cite ensuite un texte d'un déporté, cette fois, mais anonyme, qui lui a été donné, un manuscrit, hein, qui s'appelle « La lumière dans les ténèbres », hein, dont il relève le ton inquiétant et neuf, celui, dit-il, de nouvelles béatitudes, où se joignent le merveilleux... ou le féerique, dit-il, et le sinistre. Ce passage que je n'ai pas le temps de vous lire raconte la manière dont un déporté, hein, le témoin, désembourbe un chariot sous les coups d'un capot, sous un froid glacial. Hein, et le texte, à ce moment-là, là aussi justement, se déporte brutalement pour évoquer, de manière très incongrue, des rayons d'or, les rayons d'or du soleil qui annoncent le crépuscule. Alors, bref parenthèse, ce sont des éclats, des déplacements qui sont très fréquents dans la littérature concentrationnaire, en fait. Hein. Donc là, vraiment, Kérol s'empare de quelque chose qui n'est pas très mis en lumière, justement, hein, dans la lecture qu'on fait des textes de témoignages concentrationnaires, mais qui c'est quelque chose de presque récurrent, de même que la scène d'illumination au camp. Je cite Kérol, « Le merveilleux ou le féerique conduit le réel, le subjugue, l'éblouit à tel point que le prisonnier ne s'aperçoit plus du froid. » Et il voit là le dédoublement de l'être lazaréen. Donc là, c'est vraiment l'idée maîtresse hein, développée par Kérol, aussi d'ailleurs dans son texte sur les rêves des déportés, les rêves lazaréens, où il parle des rêves comme du maquis du réel. Hein, les rêves au camp sont devenus le seul ailleurs, et après le camp, ils deviennent en quelque sorte un matériau d'inspiration très fort. Hein, le déporté vit sur deux plans, reliés par un fil invisible, la terreur et l'exaltation, la griserie et le détachement. Et il cite une autre scène du même témoignage de Buchenwald. Hein, le témoin raconte hein, la répétition d'un musical, hein, d'un quatuor, hein, qui joue du Haydn et du Mozart dans une salle de dissection de Buchenwald. Les musiciens sont entourés de têtes de détenus coupées et d'organes humains trempés dans des bocaux. Sont des figures réduites suivant la méthode de réduction des Jivaros, dit le texte, et c'est dans ce cadre insensé qu'une musique sublime se fait entendre aux invalides fascinés par cette apparition miraculeuse, hein, une forme d'éblouissement paradisiaque, atroce évidemment, mais qui est vraiment donc racontée comme telle par le déporté. Alors évidemment, là aussi, moi je pense à la phrase hein, du chapitre 45 des anges mineurs, hein, lorsque, donc, hein, dans le chapitre Dora Fenimore, hein, à propos des promenades du narrateur du moment avec la femme qu'il aime, hein, dans un paysage urbain désert, la rue du Canal, hein, on a un chapitre qui est le récit d'un récit d'ailleurs laborieux, hein, qu'on lui demande de poursuivre, et il dit « je disais », c'est-à-dire qu'on ne savait pas si l'atmosphère était féerique ou extrêmement sinistre. Et dans ce chapitre, hein, parfois s'agitent des cannibales et une de leurs victimes dans une cage d'ascenseur ou à un carrefour, hein, où les oiseaux et les papillons immenses au-dessus des têtes des personnages tombent tout près, parfois en silence. Évidemment, je pense aussi à ce qui se passe dans Don Dog, hein, lorsqu'il est question de raconter, hein, l'extermination. Schlum, qui a été assassiné enfant, hein, pendant l'extermination des Ures, rappelle à Don Dog le moment où Gabriella Bruna, agonisante, a confié la mémoire de Schlum à Don Dog. Celui-ci dit n'avoir pas envie de parler de ça, mais il avoue qu'il n'en a pas perdu la mémoire. Ou alors, reprit Schlum, en concluant à haute voix une réflexion menée d'abord dans le silence, il faudrait le raconter comme une féerie, raconte tout ça comme une féerie. Oh, une féerie, dis-je, comme si c'était ailleurs, dit Schlum, comme si ça s'était produit dans un autre monde. Oh, je le fais souvent, ça, dis-je. Et donc, comme on sait, la féerie ne fait pas totalement aboutir le témoignage. Hein. Non, je ne peux vraiment pas raconter cela, dit Don Dog. Je ne veux pas et je ne peux pas. À quoi bon en dire plus si on en est incapable? C'est tout pour la féerie, dit Don Dog. J'essaierai plus tard. Hein, donc, cette fabrique de la féerie est aussi frappée d'impuissance. Elle ne garantit pas la totalité du récit. L'histoire est d'une telle nature que le récit ne sera qu'un essai. Là, je suis tentée, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, hein, un petit peu combien?
5.
Ah oui, alors non, j'ai pas le temps. Donc je vous renvoie à ce, pourtant c'est vraiment très, c'est un passage important, c'est page 258, hein, du même entretien, hein, avec Jean-Didier Wagner, où cette, je vais quand même en citer un tout petit mot.
Entre 5 et 10.
Voilà ce que dit donc Volodine. Dans d'autres romans, il faut parler et raconter des histoires pour égarer l'ennemi. Ici, là je résume et maintenant je cite, ici il s'agit de mettre en parole des fictions, des féeries, afin d'éviter le contact intime avec le noyau insupportable du souvenir. C'est à lui-même que Don Dog ne veut rien avouer, même si sa seule culpabilité est de ne pas avoir été assassiné avec les autres. En même temps, Don Dog, fasciné par la possibilité de résurgence de sa douleur, joue avec sa mémoire. Il s'approche des souvenirs terribles, il erre à proximité dans les histoires qu'il invente, il les frôle. Seulement, il y a un moment dans l'évocation où la féerie n'est plus possible, où le jeu devient trop atroce, alors Don Dog se tait. Et ensuite, un peu plus loin, des massacres ethniques ne peuvent pas être décrits, la mort de Schlum ou celle des proches de Don Dog ne peuvent pas être mises en image, on ne peut pas accepter le principe de détachement artistique, on ne peut pas admettre de chercher des effets politiques en présence des charniers. Don Dog est cohérent avec lui-même, et là, sa parole s'arrête et il le dit, c'est tout pour la féerie. Et puis dit plus loin, la parole permet de déclencher, là je résume, la mécanique de la mémoire et de mentir sur ses souvenirs avec la conscience d'être écouté. Ça c'est aussi quelque chose, donc c'est là, dit-il, un moyen de dévoyer le souvenir, de l'envelopper de mots qui le transforment en objet inoffensif. Bon, alors je pourrais en fait multiplier encore ces rapprochements, hein, tout ce que dit par exemple Carole sur l'odeur, il y a un miracle, hein, il se sert de l'idée de miracle, de résurrection, simplement parce que ce qui l'intéresse c'est l'odeur, il sent la mort, hein, ce personnage. Son monde est un monde dédoublé sans fin. Il ne reconnaît jamais ses interlocuteurs, hein, je cite, il aperçoit dans son interlocuteur un ennemi à endormir, un bourreau à deviner, le monde n'a plus de figure humaine, sait-on jamais qui est à côté de soi, la défiguration humaine a été portée à son comble, nous en sommes à reconnaître les cadavres, nous faisons partie de la grande époque de l'identification. Le déporté a en lui un secret, celui de son camp, son secret, avec un grand C. Alors évidemment, ça devient tout à fait autre chose chez Volodine, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le camp, ça fait partie, justement, au contraire, de l'expérience, hein, collective presque obligée. C'est un lieu de retrouvailles, en quelque sorte. Le déporté poussera jusqu'au bout son expérience du mal afin de faire éclater la vérité du camp. Hein, je cite encore Kérol. Et il y a tout un portrait du Lazaréen. Oui, quand je dis le déporté, c'est pas le déporté, en fait, c'est le Lazaréen, c'est pas exactement la même chose. Hein. Il en fait le portrait d'un esthète, Par certains traits, d'ailleurs, ce personnage ressemble beaucoup au Lord Chandos et à l'homme difficile à la fois de Hofmannsthal. Ça aussi, c'est très frappant. Un esthète qui musarde, je cite Carroll, en attendant, alors que le danger peut être imminent. Il deviendra, dit-il encore, une victime de charme, si j'ose m'exprimer ainsi. Il faut voir aussi ce que ce texte a d'incroyablement audacieux, écrit en 1949, de la part d'un rescapé du camp. Il y a des éléments aussi formels, narratologiques. Le héros lazaréen ne peut entrer dans une histoire, tout se paralyse autour de sa personne. Il n'y a pas d'histoire dans un romanesque lazaréen, de ressort d'intrigue. Là, évidemment, c'est très différent chez Volodine. Le dispositif chamanique permet à Volodine de recréer de l'intrigue, de l'histoire, mais aussi néanmoins de l'impuissance à agir, de l'immobilisme. Je cite encore Carroll, le héros d'une telle fiction est toujours debout, emporté dans une multiplicité d'épisodes, dans un éparpillement de l'action, dans une sorte de corruption de la réalité. C'est un personnage empêché, c'est une littérature, puisqu'il passe tout le temps du type à la littérature, une littérature, dit-il, de refus, d'empêchement, de stagnation, de réminiscence. Le déporté souffre d'une solitude inédite, il a cette formule étonnante, il mettra partout la solitude dans sa vie comme on met le feu au rideau, à sa propre maison, c'est une solitude à cran d'arrêt. Et d'ailleurs, rôde constamment dans ce texte l'idée que le lézaréen est dangereux, ou en tout cas est perçu comme un danger. Il y a l'idée d'une destructivité, de la dépersonnalisation, ou de l'impression de ressembler. J'ai pas le temps de tout citer, mais c'est... Et l'idée aussi d'un personnage qui ne parvient pas en fait à s'incarner. L'écrivain n'aura jamais assez de tous ses personnages pour se dévouer à la cause commune de la réincarnation. Le héros a craint constamment d'être pris pour un autre. Il sait qu'il a la capacité de singer autrui, de le caricaturer et de ce fait de le détruire. Tout cela, dit-il, n'est pas de la perversion, mais c'est le fait de son pouvoir de dédoublement et en même temps son état permanent de désincarnation. Et puis un type d'énonciation aussi, appelé par cette solitude du déporté, abus du monologue, recherche de phrases lapidaires, d'inscriptions bibliques, pour les dialogues qui seront poétisés, enrichis ou simplifiés à l'excès, on choisira les mots les plus succulents, les images précieuses, et on essaiera de dessiner autour de telle action ou de tel sentiment une aura. La fin du texte est une fin en fait eschatologique, mais au sens plus chrétien que tout le reste du texte. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une communauté lazaréenne aux abois, hâtive, saugrenue, où l'homme, dit-il, devient sauvage, informe, mais qu'il apparente à la fin du texte à la communion des saints. Et à la fin, toute dernière ligne du texte, on a une proposition d'acceptation de la Terre, je cite, « telle qu'elle est, aussi bien dans l'univers concentrationnaire que dans l'univers de la joie ». Et là, je crois qu'on est vraiment aux antipodes, par contre, chez Volodine, où la révolte, ce qui se perpétue, c'est la révolte contre le réel, le refus du réel, qui va donc jusqu'au déni volontaire de cette réalité-là. Mais... Encore des analogies, le lazaréen, et c'est dit aussi dans cette fin de texte par Carroll, l'homme est un homme qui a un besoin fou d'amour, inimaginable, désespéré même. Il y a dans toute écriture, même lazaréenne, une attente, une pause. Mais quel est celui qui s'est veillé aujourd'hui, surmonté son sommeil, espéré contre toute attente? Carroll dit que lui, ce qu'il veut, c'est une littérature de miséricorde qui sauve l'homme. Que cette littérature qui est certes de refus, de stagnation, de réminiscence, doit être une vraie littérature, elle est un peu clandestine, mais elle doit entrer dans la vraie, je cite, « Nous ne devons pas la laisser à l'abandon, ne pas nous détourner de ce qu'elle peut représenter d'intolérable dans sa ferveur, de maladresse dans son espérance, elle est déjà là. » Et ça, c'est en 49. Donc, en quelque sorte, on a l'impression qu'elle est encore là, mais sous de toute autre forme, bien sûr, en particulier dans la littérature de Volodine. Alors, il y a beaucoup de grandes différences, et j'ai presque pratiquement tout le temps, n'est-ce pas Évidemment, des différences fondamentales, majeures, la fonction de l'écriture n'est évidemment pas la même du tout chez l'un et chez l'autre. Le rapport est différent à l'expérience et aussi à l'espérance. C'est-à-dire que c'est évidemment Rescapé qui écrit Kérol. Hein. Je le citerai pour résumer, pour aller vite. J'ai dominé une tentative mortelle. Très étonnante formule. J'ai réemménagé dans la vie, déplacé, mis en quarantaine, souillé par les camps de concentration. Il fallait bien que je secoue cette saleté. L'écriture a été mon détergent. Et dans toute cette histoire de détergent, il y a l'idée d'une catharsis ou d'un essai de catharsis. Et là, on est aussi aux antipodes, je pense, de la littérature de Volodine, qui prend acte de l'impossible catharsis hein, dans l'héritage, hein, qui doit être pour lui, évidemment, l'héritage de tout, hein, de tout le XXe siècle, de tout le XXe siècle comme siècle du malheur politique, du mal politique. Pas seulement les grands totalitarismes, mais la guerre froide et après la chute du mur, là, les nettoyages ethniques divers et variés. Et donc, en héritant de tout cela, la question du détergent ne se pose plus, hein, ou ne parvient plus à se poser, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ce que disait Kérol, hein, c'est surtout écrire, disait-il, c'est surtout mener une quête acharnée pour vivre. On m'a enlevé la vie pendant quelques années, j'essaye de la récupérer. Et la chose littéraire doit récupérer ce que nous vivons. Donc là, évidemment, toute la question, c'est celle du nous, c'est-à-dire qui est nous, ce que nous vivons, et quelle est cette vie, qu'est-ce que c'est au fond que l'expérience historique que doit récupérer la littérature volodinienne. Chez Kérol, le survivant est en quelque sorte le dépositaire de l'actualité même de l'événement, hein, toute sa vie, dit-il, demeure mobilisée. En quelque sorte, le survivant est l'otage de l'événement, de son présent, de son actualisation continue. Et sa tâche, c'est de révéler l'humanité, entrer dans ce qu'il appelle sa nuit blanche. Chez Volodine, en quelque sorte, du fait de la nécessité d'hériter de l'ensemble du malheur historique du siècle, qui donne lieu, je crois, à une sorte de mythe historique, hein, la littérature elle-même est entièrement prise en otage et volontairement de cette histoire malheureuse, qui se ressemble continuellement et qui s'aggrave en quelque sorte. Parce que moi, ce qui me semble très important, alors, donc, il y a une forme d'affirmation du nihilisme, hein, et de plusieurs, il y a une histoire du nihilisme, hein, qui est réfléchie en particulier dans le commentaire de la Chaga du ciel péniblement infini, hein, il y a des nihilismes qui se succèdent. Cette affirmation du nihilisme, cette avancée dans le nihilisme, évidemment, Kérol ne pouvait pas la partager, je crois qu'en tant que rescapé, ce geste-là n'est pas possible, ou il n'est pas possible, c'est une pause, disait-il. Il n'est pas possible de le conduire au bout. Et ce que fait Volodine, au fond, c'est cette mise en cette continuelle épopée, hein, du rien qu'il poursuit, lui, et pour aller, au fond, de plus en plus loin dans ce monde, ce fameux monde noir, hein, qui est, hein, la forme oratique, hein, de ce malheureux XXe siècle. Et ce qui m'impressionne, et là je terminerai juste en disant ça, c'est que pour moi, là, au fond, la grande question que je me pose continuellement en lisant Volodine, c'est quelle est la teneur véritablement politique de cette œuvre. Je vois bien que toute l'œuvre a un sens éminemment politique, mais que l'espoir révolutionnaire est révolu. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui hante le présent, c'est le monde des camps, c'est la violence extrême, c'est le nettoyage ethnique. Je ne crois pas du tout que la révolution, que l'espoir révolutionnaire, l'égalitarisme, hante le présent de la même manière. Ce n'est pas du tout la même spectralité, on est dans le révolu. C'est-à-dire que c'est quand même une littérature qui fait le deuil, enfin qui chante le deuil, alors certes infini, de la révolution. Moi, la question que je me pose, en lisant Volodine, à la fois je suis tout à fait emportée par ce chant du deuil, hein, mais je suis impressionnée aussi par ce qui nous reste à faire, hein, politiquement parlant. C'est-à-dire qu'il y a une mise au passé du messianisme qui m'impressionne beaucoup. Il y a quelque chose de très fort, très puissant, mais aussi de terrifiant pour moi dans ce geste-là. Et qui rend du même coup, par exemple, avec toute une pensée qui m'est familière et qui m'est chère, la pensée de Benjamin, la pensée de Kafka, dont j'essaye de penser là aussi le lendemain. Parce que quand Kafka dit « l'espoir existe », quand il dit « l'espoir existe, mais pas pour nous », il ne met pas l'espoir au passé, c'est-à-dire qu'il ne représente pas l'espoir au passé comme quelque chose dont il faut faire le deuil. L'espoir existe, et pas seulement dans le chant, puisqu'on savait bien ce que Kafka disait de sa propre littérature. Donc la question que je me pose, c'est cette dissociation quand même entre le sens politique de l'œuvre, hein, qui se réfugie au fond dans la beauté du chant, hein, dans cette mise au passé de l'espérance qui donne lieu à cette étrangeté du beau, hein, cette étrangéisation de l'histoire et de l'esthétique mutuellement, et qu'est-ce que ça rend encore possible d'une existence politique au sens non littéraire du terme. C'est une des questions que je me pose. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais j'ai plus le temps du tout. Excusez-moi d'avoir été trop longue. Alors,
merci pour cette communication qui entre en résonance avec beaucoup de choses qui ont été dites et qui en même temps pose la question politique d'une manière un peu différente. Alors Jean-Pierre Vidal.
Oui, je me pose un peu les mêmes questions et j'ai essayé en partie d'y répondre dans ma communication. Et en vous entendant parler de Pierrol et de ce qui est dit, je dirais, du rôle de la magie ou de la fantaisie dans une sorte d'ailleurs qui est en même temps à l'intérieur du paysage, si je puis dire, ça m'a fait penser immédiatement à un roman de science-fiction que j'imagine Antoine Valadine connaît sûrement, parce que ça a été publié aussi chez De Noël, Présence du futur. C'est un roman de Stanislas Lem qui s'appelle La Voix du maître. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non.
Bon, alors ça, je suis sûr que vous allez voir des questions posées là de façon étonnante. Et moi, en tout cas, en vous entendant, j'ai vu là l'aboutissement du développement que j'ai essayé de faire sur l'Agone avec Achille.
Oui, oui.
Et Xénos. Je résume brièvement le roman, c'est extraordinaire. On vient de recevoir quelque chose des étoiles, ça c'est le point de départ. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est un virus? Alors comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Alors on réunit des savants du monde entier, de toutes sortes de disciplines, des mathématiciens, même des philosophes, bon. On les réunit ensemble pour travailler sur cette chose qu'on a reçue, dont on ne sait pas ce que c'est. Et parmi ces savants, il y a un mathématicien juif qui s'appelle Rapaport. Et vous savez que Stanislas Lem est lui-même juif. Je ne sais pas s'il a connu les camps, mais en tout cas. Ce mathématicien juif, à un moment, raconte une histoire qui lui est arrivée. Pendant la guerre, il a été saisi dans une rafle, par hasard. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on a un rapport entre le singulier et le particulier, le destin individuel et une collectivité dans laquelle on ne savait pas qu'on faisait partie. Hein? Donc on ne savait pas qu'on faisait partie. Les juifs ou la judaïté. Alors il est saisi par hasard dans une rafle, et là on commence à fusiller tout le monde. Et il se dit, lui, il attend son tour d'être fusillé, il se dit, au fond, c'est rien qu'un mauvais moment à passer, il suffit que je croie à la métempsychose. Il suffit que j'y croie. Il dit, si j'y crois pendant la seconde où on va me fusiller, ça va aller tout seul. Mais alors, la question qui se pose à lui, c'est, dans quoi est-ce que je vais me réincarner? Parce qu'il faut savoir où je vais, si... Et alors, il y a ce truc extraordinaire, il se dit, et là... J'ai vu cet officier allemand, un dieu de la guerre, blond, larguin, avec des gants blancs. C'est lui qui commandait tout. Il dit, j'ai décidé de me réincarner en lui. C'est incroyable quand on y pense. Hein. C'est-à-dire le parcours de tout l'agone que j'avais décrit à propos d'Achille. Achille, Priam, Hector, etc. Et au moment où il va être fusillé, les Allemands s'en vont. Inexplicablement, au moment où il avait donc décidé de croire il allait se réincarner dans l'officier allemand qui commandait tout ça, les portes du camp s'ouvrent, les Allemands sont partis inexplicablement, les portes du camp s'ouvrent et arrive une Jeep, je ne sais plus si elle est américaine ou russe, avec une caméra dessus, et on les filme. Alors là, en quelque sorte, là, il y a une figure qui est hallucinante. C'est comme si la société du spectacle ressaisissait tout.
Ça date de quand, ce texte hein?
60 dans les années 60.
Ça ne m'étonne pas, parce que il y a pas mal de textes en fait, qui ont été écrits dans les années 60-70, des textes aussi de théâtre, de textes de rescapés ou d'enfants cachés, souvent, qui jouent sur ce jeu dangereux de l'analogie entre la, la victime et le bourreau, l'identification au bourreau. Ilsenrath, René Kalinski, enfin, c'est une période où c'est, je crois qu'on ferait ça beaucoup plus difficilement aujourd'hui.
Mais là, c'est plus que l'identification.
Oui, c'est autre chose, oui, bien sûr.
C'est, on a parlé beaucoup de la métalepsie, et la métalepsie, c'est ça aussi. Celui qui ordonne ma mort, oui. C'est en lui que je vais continuer, au-delà de ma vie.
Alors, Pierre Ouellet avait aussi une remarque.
Oui, alors je vous remercie d'avoir fait ce parallèle entre le romanesque lazarélaire, ou après la littérature concentrationnaire, et la littérature post-exotiste, parce que je pense effectivement qu'il y a des analogies, et Carole est sans doute le premier à avoir réfléchi à ce qu'on peut appeler l'héritage post-mémoriel, puisqu'on aime bien ici le préfixe post, l'héritage post-mémoriel, alors qu'il est, il est un témoin légitime, il a connu les camps, il aurait pu effectivement ancrer son expérience d'écrivain sur l'activité mémorielle, mais il me semble, à le lire, en tout cas, vous voyez entendre aujourd'hui, qu'il considère finalement la mémoire comme une sorte d'appropriation, de réappropriation de ce qui n'est plus de l'ordre du propre. Il y a une sorte d'impossibilité d'identifier ce qui a été à partir de ce qui est dorénavant. Et donc il y a une coupure. C'est pourquoi d'ailleurs l'un de ses grands romans lazaréens s'appelle Les corps étrangers. L'expérience des camps devient une sorte de corps étranger en soi. Donc on ne peut plus se l'approprier par la mémoire. Le seul langage possible pour saisir cette étrangéité, l'étrangéité qu'on retrouve aussi dans l'univers bolivien, c'est le rêve, notamment. Et le rêve, non pas seulement dans le sens que Freud lui donne, c'est-à-dire un travail à partir de restes diurnes, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, puisqu'il s'agit de restes nocturnes qui viennent hanter la veille du héros concentrationnaire. Et il y a une étrangeté dans ses premiers romans, en tout cas, parce qu'après, bien sûr, la langue de Cairoy va se simplifier, ses intrigues vont aussi être un peu plus, vraisemblables, mais les premiers romans lazaréens, en tout cas, sont hantés par ces restes nocturnes, comme si finalement, la saisie de l'événement, puisqu'il s'agit d'événements, il ne s'agit pas de faits qui sont des états ou des états qu'on peut vérifier. Il s'agit là de quelque chose qui, au contraire, jaillit, surgit. Donc c'est un apparaître, une sorte d'épiphanie, pour reprendre son vocabulaire plutôt catholique. Et donc comme si, finalement, ça ne pouvait être évoqué qu'à travers ces fulgurances-là. On a parlé, je ne sais pas si c'est François Bizet qui parlait de flamboyance, des petits moments comme ça, des clairs. Et qu'on, vous en avez évoqué quelques-uns là, en citant des passages. Et ça, c'est très très proche du type de témoignage, malgré tout, qu'on retrouve aussi dans la littérature post-exotique, qui est par jaillissement, comme ça.
Oui, c'est ça, oui.
Donc c'est tout le contraire, si vous voulez, une reconstitution par appropriation de faits qui se sont développés selon une certaine logique, mais plutôt l'espèce de travail onirique qui perdure dans la veille, sous forme d'une hantise, en quelque sorte, et qui fait surgir, comme ça, de la vérité événementielle. Et chez Cairoy, si vous lisez ses romans lazaréens, il n'évoque effectivement jamais comme tel les faits historiques, mais ils sont là toujours présents comme des ombres,
ces événements-là. Juste un mot, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, sur la notion d'étrangeté, étrangèreté, étrangéité. Il y aurait tout un truc à faire là-dessus, je pense, qui est très important à mon avis, parce que dans toute la littérature relative au camp et à l'extermination, les littératures, on voit le procédé que Shklovsky avait théorisé d'étrangéisation se systématiser en quelque sorte. Lorsque d'ailleurs Cartès utilise cette figure de l'adolescent qui ne comprend rien, qui est hébété et qui devient une espèce de candide à Auschwitz, c'est vraiment le procédé de l'étrangéisation, je crois. Et ce procédé-là, il apparaît aussi beaucoup dans les littératures que j'appellerais des héritiers. Par exemple, Danny Lotis, dans Tombeau, ce livre extraordinaire qui est Tombeau pour Boris Davidovitch, l'utilise aussi tout à fait méthodiquement, comme il le dit lui-même et comme il l'a expliqué dans son livre La leçon d'anatomie, où il se réclame de Shklovsky et où il dit la légitimité, l'utilité en fait, il se réclame aussi beaucoup de Borges, l'utilité de ce procédé de l'étrangéisation pour parler d'une histoire qui, par sa folie, par son délire, est en elle-même déjà étrange, enfin inassimilable. Et d'autre part, cette notion, elle est même travaillée par les historiens, enfin une partie des historiens de la Shoah, je crois. Hein, je pense que lorsque Saul Friedlander réécrit l'histoire de la Shoah dans l'Allemagne et les Juifs, en réutilisant toutes sortes de matériaux, y compris des témoignages d'enfants, précisément, parce que je crois que le regard de l'enfant est aussi très étrangéisant, c'est aussi ça qu'il fait. Et je pense à un texte de Carlo Ginzburg, qui date de 1992, je crois, qu'il a publié sur la notion d'estrangement, justement, hein, où il fait référence à Vitesse, c'est-à-dire Brecht, etc. Donc, et il dit quelle peut être l'utilité de cette notion d'étrangéisation pour nous historiens. J'avais d'ailleurs noté, je sais plus, il évoque Proust, hein, dont je ne retrouverai pas, et il dit même si la guerre devenait une science, il faudrait néanmoins l'écrire comme Elstir peignait ses tableaux à partir de, etc. Donc à l'envers. Hein. Et alors, moi, ce qui me frappe dans la littérature de Volodine, c'est qu'il y a une très forte conscience de la puissance de ce procédé-là, qu'il essaye de nous rendre paradoxalement familiers. C'est-à-dire que le narra étrange, c'est presque une blague. Ça devient, hein, qu'est-ce qu'il a à nous embobiner avec ces narras étranges? Pourquoi étranges? C'est-à-dire que ça fait partie du référent culturel qui va avec cet énorme continent, hein, des témoignages et de la mémoire des camps, des exterminations, je crois. Donc il y a une espèce de, là aussi, une mutation, à mon sens, de la notion d'étrangeté, et peut-être que le mot étrangéité, ça signifie ça aussi. Il y a quelque chose, une fabrication d'un familier, presque d'un folklore, je dirais. Alors là, plutôt pour parler de l'espoir révolutionnaire. Il joue avec le kitsch, presque avec le kitsch de cet héritage historique, mais en l'assumant. Je ne sais pas si je me trompe. Je parle à Dieu.
Dieu ne répond pas. Mais sur cette notion de Stranini, il y a une filiation avec Voltaire, le Voltaire de, oui, Candide et de la Boucherie.
Oui. Donc, Ginzburg passe par toute une série de références. C'est-à-dire, il y a les stoïciens, il y a Voltaire, le Huron.
Qui est une variation sur l'enfant.
Oui, 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 c'est ça. Et l'enfant, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors moi, j'aurais peut-être une question. Le merveilleux, c'est vraiment évidemment antithétique de ce qu'on est en droit d'attendre quand on parle de l'horreur. Donc il y a dans cet oxymoron-là quelque chose qui est fort aussi, que vous avez abordé un peu, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette notion de féerie, de merveilleux, qui est aussi l'univers du conte? Vous parliez de Benjamin tout à l'heure.
Mais je pense que c'est aussi des catégories qui ont leur sens, qui ont un sens spécifique dans ces deux œuvres. C'est-à-dire que je pense que Kerol crée sa notion de merveilleux, qui est très particulière. Il la retire à une certaine tradition du merveilleux. Et de même, à mon avis, la notion de féerie chez Volodine est absolument, fait partie vraiment du post-exotisme comme création singulière. Donc, l'appel, en fait, à des puissances de dégagement, de décollement du réel, c'est une manière de redonner, hein, une capacité de luminosité, d'attrait, de rayonnement, d'aura, à ce qui est a priori le contraire, oui, mais... C'est presque un donné anthropologique, au fond, quand on lit les témoignages des camps, et qu'on a régulièrement, justement, hein, ces espèces d'illuminations ou d'images illuminantes, on se dit que c'est absolument nécessaire, sans doute, de raconter ces histoires, cette histoire-là, de cette manière-là, ou en tout cas en se décollant totalement de la terre où ça a été vécu pour aller voir ailleurs.
Ouais. Frédéric Dethu.
Est-ce que c'est pas justement là que c'est un problème, quelque chose de l'ordre de l'utopie qui réintroduirait le politique que tu es sur lequel tu t'interroges à la fin de ton exposé? Enfin bon, moi je. Je ne vais pas trop parler parce que sinon, je ne sais pas si je vais me répéter dans 5 minutes. Justement, dans le texte que tu auquel tu faisais référence tout à l'heure, sur après le romantisme, j'essaie de contester la position d'art ancien s'attaquant à l'art post, ce qu'il appelle lui l'art post hypocrite. Alors, moi, je ne suis pas convaincu. J'ai essayé d'y revenir, mais.
Ben, je pense qu'on est dans une utopie littéraire. Elle est plus politique au sens traditionnel où peut l'être ou a pu l'être une utopie politique. Elle est politique au sens où sa poétique est entièrement entièrement politique. Au fond, c'est le matériau, la politique est le matériau même de cette utopie poétique. Mais je pense pas. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est en me posant des questions de tout haut. Par exemple, lorsque je lis les... Qu'en est-il du messianisme aujourd'hui ? Du messianisme politique. Ce que fait Agamben, c'est ça. C'est-à-dire là, je pense qu'avec Volodine, en un sens, même si Agamben est parfois utilisé pour parler de la littérature de Volodine, on est en un sens à l'opposé. Hein ? C'est-à-dire qu'Agamben, avec sa communauté qui vient, tente de relancer... quelque chose comme un espoir messianique, même s'il l'étudie aussi en tant qu'exégète de Paul, etc. Lorsque je lis Les Ticounistes, hein, le comité invisible édité à La Fabrique, lorsque je lis Les Entretiens de Julien Coupa, etc., de temps en temps, cette prose-là du comité invisible, j'ai l'impression presque qu'elle est parodiée dans les discours des héros post-exotiques. Et c'est ça qui me trouble au fond. C'est qu'en est-il de cette ressemblance-là, qui est une autre, qui pose une autre question, qui n'est plus de poétique au fond, hein. Puisque eux se resservent à nouveau des instruments au fond, hein, de la pensée kabbalistique de Tzimtzoum, pour essayer quand même de repenser une autre révolution. C'est-à-dire que je me pose la question, cette mise au passé de la révolution, de l'espoir révolutionnaire, est-ce qu'elle n'est pas aussi un empêchement de penser un avenir qui ne serait pas celui seulement de la répétition de l'atroce? Alors, voilà, je ne sais pas, parce que je pense qu'il n'y a pas trop non plus lieu d'espérer dans notre monde. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire qu'espérer sous la forme de la plainte, de l'épitaphe.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre une pause.